ici à Soigny. Mais qui donc est cet homme? La question n'est pas Dominique Collin qui est donc et cet homme, hein, c'est Jésus. Ce que nous avons entendu et vu, avec les mots si justes, si profonds, si inouïs de Christian Bobin, c'est ce à quoi je voudrais donner quelques échos, quelques aspects de résonance. On pourrait presque dire que ce que vous avez entendu suffirait amplement à répondre à l'objectif de cette journée, nous faire redécouvrir Jésus de Nazareth, cet inconnu, et j'ai envie même de dire Jésus de Nazareth, cet illustre inconnu. Parce qu'à la fois, c'est une figure incontournable de l'histoire, au moins de l'histoire occidentale. Mais cette figure est aujourd'hui répandue de par le monde. Qui ne connaît pas, ne fût-ce que comme référence, le nom de Jésus de Nazareth? Et puis, ce Jésus est, je dis censé, être celui qui est fondateur de ce christianisme qui lui aussi s'est répandu de par le monde et qui, en tout cas chez nous, a façonné notre culture, mais aussi plus que notre culture, un imaginaire, quelque chose d'une sensibilité, mais aussi des références, des idées, quelque chose évidemment qui touche à la religion, au rite, aux dévotions, à la prière. C'est une figure donc tout à fait essentielle si l'on veut comprendre quelque chose de notre Occident. Mais je pense que cet illustre inconnu reste inconnu. Et pour une raison, j'allais dire, tout à fait essentielle et fondamentale. C'est que de ce Jésus, il ne nous reste rien. Ou presque rien. Formule un petit peu provocatrice, comme j'aime vous en proposer, parce qu'elles sont là pour ouvrir des pistes, réouvrir un questionnement, réentendre des choses qu'on croyait déjà avoir entendues, suggérer éventuellement des nouveaux chemins, des nouvelles pistes. De Jésus, il ne reste rien. Ou, s'il reste quelque chose de lui, c'est uniquement un souffle, un esprit et une parole. Tout le reste qui nous reste de lui est rien en comparaison. Même le christianisme n'est rien sans Christ. Et même le christianisme est, d'une certaine manière, la trahison du Christ. De sorte que s'il nous faut redécouvrir le Christ, c'est aussi en renouant d'autres fidélités que celles qui sont les nôtres, qui sont chrétiennement les nôtres. Il nous faut presque, non pas renoncer, ni se trahir soi-même, mais il faut presque prendre un chemin qui consiste à aller redécouvrir au plus intime quel est cet esprit qui souffle en moi, quelle est cette parole qui résonne et qui parle en moi. Ce sont les deux seules traces, les deux seuls indices, les deux seuls signes qui nous conduisent à Jésus de Nazareth. Tout le reste, les églises, les crucifix, les peintures, les films, les chants, les dévotions, les rites, la messe, les curés, le pape, tout cela a certes un lien probable avec le Christ. Mais c'est aussi pour tout cela le lieu d'une discordance, un lieu où n'en est plus tout à fait dans l'écoute de cet évangile, de ce souffle. Et c'est un lieu aussi où plane le risque que ne souffle plus l'Esprit de Jésus. Alors je vous invite pas du tout à ne plus devenir chrétien pour entendre le Christ, mais en le restant si vous l'êtes, ou en tout cas si vous ne l'êtes pas, à pouvoir réentendre souffler en vous le souffle et la parole de cet homme-là. En disant ce que je viens de dire, je dis que Jésus, c'est comme Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Si vous êtes musicologue, si vous êtes mélomane, si vous êtes intéressé par la musique, il vous plaira de savoir des choses sur sa vie. Il vous suffira de savoir qu'il est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et qu'il est mort le 5 décembre 1791 à Vienne. Et vous aurez peut-être plaisir d'aller visiter sa maison natale à Salzbourg, ou de savoir qu'il était un enfant prodige, de savoir que son père l'a amené comme un animal de foire dans toutes les cours européennes pour le faire improviser. Vous saurez qu'il a composé des opéras parmi les plus beaux, dont Don Giovanni. Mais ça ne vous servirait pas à grand-chose si vous n'êtes pas sensible à sa musique, qui est, en rigueur de terme, le seul lien vivant, actuel, permanent, c'est-à-dire éternel, que nous ayons avec Mozart. Chaque fois, je dis bien chaque fois, que dans votre playlist ou par CD, vous mettez la symphonie Jupiter, la 41e, la dernière, celle qui est un jaillissement de vie et de joie, celle qui redonne la jovialité à ceux qui sont mélancoliques et qui redonne le goût de la vie à ceux qui l'auraient momentanément perdu. Donc quand vous écoutez cette symphonie, la 41e, mais aussi la 39e, vous êtes en contact non seulement avec Mozart vivant, mais vous êtes en contact avec ce qu'il a été le plus significatif, le plus vitalement nécessaire à la vie de la culture et à la vie tout court. Parce qu'en entendant ce qu'il a écrit, même si vous n'avez pas la capacité de lire la partition et même si vous n'êtes pas vous-même musicien, vous devenez contemporain de Mozart. Il en va exactement de même, et je dis bien exactement, avec Jésus de Nazareth. Mais faire le détour par le personnage de Mozart montre bien combien et comment nous n'avons pas vis-à-vis de Jésus le même rapport que celui que nous avons avec Mozart. Il va de soi que Mozart, c'est sa musique. Eh bien, Jésus, c'est sa parole. Quand nous entendons la parole, celle de l'Évangile, nous sommes mis en contact immédiat. Nous sommes contemporains de ce qu'était Jésus, de qui il était, de comment il parlait, de ce qu'il avait envie de nous partager, de nous communiquer. C'est très exactement de la même manière qu'en entendant la musique de Mozart, nous devenons contemporains de l'Évangile. Et cet Évangile n'est plus alors une parole datée qui appartient à une tradition. Elle n'est plus une parole qui a fait des chrétiens depuis 2000 ans. Elle est la parole qui est la plus actuelle, la plus proche de moi, dans ce que j'entends de la vie, de ce que se partage cette confiance en la vie, ce désir d'avenir. L'Évangile, quand je l'entends, comme quand j'entends la 41e symphonie de Mozart, me met immédiatement en résonance avec une parole qui est la parole même de la vie. Et c'est cette écoute-là, cette communion-là avec Jésus, qui fait de Jésus l'homme le plus vivant, le plus actuel et le plus en avance. Il faut donc, si vous voulez bien, que nous changions notre regard. Nous avons un regard qui est toujours dans le rétroviseur. Et c'est bien normal parce que donc, en vieillissant et ignorant ce qu'il y a devant nous, c'est-à-dire notre futur, même le futur proche, nous avons tendance, je dis bien, et ce phénomène est surtout celui des gens qui vieillissent, eh bien, nous avons tendance à regarder dans le rétroviseur et à relire nos vies, en la renvoyant à des souvenirs, à des nostalgies, à une mémoire. Et tout ça est tout à fait, de toute façon, essentiel et naturel. Quand nous pensons à Jésus, nous le renvoyons aussi dans le rétroviseur de l'histoire. Et c'est absolument pas comme ça que l'on se met en contact et que l'on entre en contact avec lui. Jésus, et ça a été si bien dit par Christian Bobin, Jésus de Nazareth, étant cet homme qui marche, c'est-à-dire qui toujours passe, est celui qui est devant nous, en avance sur nous. Et s'il est en avance, c'est déjà parce qu'il réalise une promesse qu'il a faite de son vivant. Juste avant de mourir, au moment de ce que nous appelons la dernière scène, Jésus annonce dans l'évangile de Marc notamment qu'il précédera ses disciples en Galilée. je vous précéderai vers la Galilée, dit littéralement le grec. Et puis il meurt. Et puis des femmes entrent dans un tombeau pour pratiquer les derniers rites funéraires qu'elles n'avaient pas pu faire à cause du Shabbat. Et étrangement, ce tombeau a été laissé vide, sans le cadavre de l'homme que l'on avait déposé là. Et à la place de l'homme mort qui n'est plus là, il y a un jeune homme dont on ignore tout, l'identité, la nature, et qui est un jeune homme qui dit simplement, il n'est pas là, il vous précède vers la Galilée. Allez dire à Pierre et aux disciples qu'il vous précède vers la Galilée. L'évangile de Marc s'arrête à cet endroit très précis. Nous ne saurons jamais, à partir du texte, si les disciples vont faire retour vers la Galilée. Je fais une petite parenthèse. Ça dit bien que ceux qui veulent aller retrouver Jésus à Jérusalem se trompent d'endroit. Je l'ai fait 5 ou 6 fois, c'est une très très belle expérience d'aller en Israël, et c'est une drôle d'expérience d'aller dans le Saint-Sépulcre, qui est un bazar fantastique, et c'est l'endroit peut-être le seul au monde où on comprend le mieux pourquoi le christianisme est une infidélité au Christ. Je ferme la parenthèse. Si vous allez au Saint-Sépulcre, il n'y a rien à voir, puisqu'il nous précède vers la Galilée. La Galilée n'est pas non plus un rendez-vous GPSisable, on ne le trouve pas sur les cartes, au sens où il devient métaphorique, bien sûr. La Galilée, c'est d'abord le lieu où Jésus a vécu et a parlé. Jésus est un Galiléen, il n'est pas né à Bethléem, pour ceux qui y croient encore. C'est un Galiléen qui a vécu toute sa vie en Galilée et qui, dans l'évangile de Marc, n'a fait qu'une incursion, une seule fois, à Jérusalem, en Judée, et ça a été fatalement pour en mourir. Jésus, donc, est un Galiléen, un pur Galiléen. Et un Galiléen qui parle comme un Galiléen, c'est-à-dire qu'il parle simplement. Il parle aussi abruptement. Il parle de ce qui compte, et ce qui compte pour les hommes et les femmes de Galilée, c'est d'être rendu à une dignité, à une valeur. Ces hommes sont déconsidérés, pour ne pas dire méprisés. Et pour eux, rien n'arrive de bon, hormis ce qui se passe autour du temple de Jérusalem. Pour ces hommes et pour ces femmes, la religion est loin. Et la religion des pharisiens leur dit que l'amour de Dieu est condition des mérites qui sont les leurs, à condition bien sûr de respecter scrupuleusement la loi et toute la loi. Ces hommes et ces femmes, ces pêcheurs, ces agriculteurs, ces paysans, ces petits commerçants, sur un pourtour, Christian Bobin l'a bien dit, un petit pourtour de lac dans une toute petite province de la Palestine de l'époque, eh bien, ces hommes et ces femmes n'entendaient plus ou n'avaient plus jamais entendu cette réalité tout à fait inouïe pour eux. C'est que la bonne nouvelle signifie que la vie éternelle, on l'a, elle est nôtre, elle est une promesse de vie en surabondance et d'une reconnaissance d'un Dieu qui, pour chaque être humain, de manière tout à fait singulière et unique, dit « Il est bon que tu existes comme tu existes. » Jésus de Nazareth est l'homme qui dit à chaque être humain ce qu'il rencontrait, hommes et femmes, petits et grands, quelle que soit leur qualité, puisque, là encore, Bobin le marque et le signale avec tellement de force, Jésus de Nazareth ne connaissait pas de distinction. À chacun, un à un, il dit, il est bon, toi, que tu existes. Cette parole, c'est l'évangile en condensé. C'est la quintessence de l'évangile. C'est la réduction de l'évangile, mais réduction culinaire. où on n'en a gardé que le meilleur. Il est bon que tu existes. En entendant cette parole, il faut certes l'accueillir. Et toute la vie, ce sera votre réponse à cette parole. Parce que dire à quelqu'un « il est bon que tu existes » invite celui ou celle à qui cette parole est adressée à se l'accorder à lui-même. Et ça, c'est la chose la plus difficile et la plus exigeante et aussi la plus risquée. Accueillir, s'accorder à la parole qui dit « il est bon que j'existe ». Quand Christian Bobin dit que la parole de Jésus « Je suis la vérité » est la parole la moins orgueilleuse qui soit, vaut exactement pour la parole qui dit « Il est bon que j'existe ». C'est la moins orgueilleuse, c'est la plus humble, c'est la plus vraie, c'est la plus simple, c'est la plus joyeuse parole que l'on puisse entendre et à laquelle on puisse s'accorder. Elle ne dit pas « Il est bon que tu existes contre les autres » ou « pour t'en protéger ». Elle ne dit pas « Il est bon que tu existes supérieurement aux autres ». Elle ne dit pas que la vie, c'est un struggle for life. Elle ne dit pas que les autres sont nécessairement des ennemis. Et même s'ils le sont, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas encore entendu eux-mêmes qu'il est bon qu'ils existent. Parce que s'il est bon que j'existe, et que si vous entendez la même parole, il est bon que vous existiez aussi dans la même plénitude de cette existence, dans la même générosité du don que cette parole fait, alors il est bon que nous existions. Plus de ressentiment, plus de jalousie, plus de peur et de méfiance les uns envers les autres. De là, de cette parole découle donc tout l'évangile. L'évangile du pardon, l'évangile de la paix, l'évangile de la fraternité, l'évangile de la joie. Mot que je sais pertinemment bien et je ne peux même pas éviter ce piège avec vous ce matin. Mot que je sais être des mots qui font partie d'un discours chrétien qui évite rarement de ronronner, de bavarder, d'être niais, d'être gnangnan, d'être pieux, d'être gentil, parce qu'il est vrai que l'on entend, depuis qu'on est enfant, qu'il faut être gentil comme Jésus, parce que Jésus était gentil, ce qui est faux, ce qui est faux. Lisez les évangiles, vous verrez que Jésus n'était pas toujours très gentil. Si vous en voulez des exemples, je vous en donne tout à l'heure. C'est faux de dire des choses pareilles. L'évangile, c'est pas un code de morale pour devenir meilleur. Ce n'est pas un manuel de politesse et de savoir-vivre ou de savoir-faire. Ce n'est pas des prestations à assurer pour se hausser dans l'échelle de la vertu. C'est une parole désarmée. C'est une parole gratuite, sans condition, qui n'oblige à rien, qui n'oblige à rien. C'est une parole sans condition, libre d'accès, qui concerne tout homme et toute femme qui vit en ce monde, quelles que soient ses qualités, quels que soient ses doutes, quelle que soit sa croyance, quelle que soit son incroyance, quelle que soit sa religion, quelle que soit son absence de religion, à tout homme et à toute femme, cette parole dit « il est bon que tu existes » et ça, c'est la joie de Dieu pour ceux qui veulent mettre ce mot, ceux qui n'ont pas besoin de ce mot, entendent aussi pleinement l'Évangile. L'homme de cet évangile, l'homme qui a osé dire ces mots, ce Jésus de Nazareth, est bien un illustre inconnu, parce que nous nous sommes attachés à la figure de l'homme, mais nous avons oublié sa parole. Ou plutôt, nous l'avons compliqué, durci, fossilisé. Nous l'avons réfléchi et pensé. Nous en avons fait des idées, nous en avons fait une doctrine, et pire que tout, nous en avons fait un catéchisme. Pardonnez-moi, mais un des plus sûrs moyens, depuis longtemps, en chrétienté, de ne plus entendre l'évangile de Jésus, c'était très exactement d'envoyer les enfants, les jeunes, au catéchisme. Parce qu'il en ressort un petit Jésus. Le petit Jésus d'un imaginaire enfantin, pour ne pas dire infantile et infantilisant. Qui est certes le petit Jésus qui nous réjouit à chaque fête de Noël, un petit Jésus qui appelle du sentimentalisme, et c'est pas en soi très mauvais. Mais ce n'est plus et ce n'est pas l'homme que l'on entend à sa parole, comme quand on entend du Mozart, et vous me permettrez de revenir sur cette comparaison parce qu'il y a un deuxième point éclairant par rapport à Jésus, c'est qu'un certain nombre de gens qui n'aiment pas Mozart, et ça c'est tout à fait leur liberté, même si je ne les comprends pas, ceux qui n'aiment pas Mozart disent « Ah oui, mais c'est de la musique galante ». Il est vrai qu'une partie de l'œuvre de Mozart, qui hérite des canons culturels de son époque, au même titre que Jésus de Nazareth hérite des canons culturels de son époque, à commencer par le judaïsme tardif du Second Temple, disent les historiens, ce Mozart qui donc fait de la musique galante, mais qui la réinvente en y injectant son génie, n'est pas une musique doucereuse pour, j'allais dire, passer le temps dans une gare, ou dans un restaurant, ou dans un ascenseur, encore que je me plaigne de ne plus, ou d'entendre si rarement Mozart dans ces lieux-là. C'est pas ça, la musique de Mozart. C'est une musique qui arrive à conjuguer dans les mêmes accords, les deux coordonnées fondamentales de toute vie humaine. Toute vie humaine est un souffrir et un réjouir ou se réjouir. Par là, vous pouvez, sous ces deux mots, identifier toutes les expériences, tous les sentiments, tout le rapport que vous avez avec la vie. La vie, c'est un souffrir et réjouir ou se réjouir. Et ce qu'apporte la musique de Mozart, c'est de nous faire entendre que la souffrance, ce n'est pas une souffrance en pure perte, c'est le désir de joie qui est en souffrance en nous, c'est-à-dire qui attend de prendre le dessus. Quand on dit en français être en souffrance, il y a certes quelque chose qui dit bien qu'il y a un travail qui nous travaille et que tout ça ne se fait pas sans souffrance. Mais c'est parce que l'on est en attente du déploiement, de l'émergence, de l'apparition et de la nouveauté de quelque chose de neuf, de quelque chose de bon et de quelque chose de profondément désirable. Si nous sommes en souffrance, c'est parce que nous sommes en souffrance de la vie, de la liberté et de la joie. Et c'est ce que fait entendre la musique de Mozart. Elle entend ou fait entendre la joie dans la souffrance et elle fait entendre la souffrance dans la joie. On ne peut pas mieux dire ce qu'est l'Évangile. Et on ne peut donc pas mieux entendre aussi ce que dit l'Évangile qu'en écoutant du Mozart. Vous diriez, il est venu parler de Mozart ou il est venu parler de Jésus, celui-là ? L'un fait entendre la parole de l'autre, l'autre se fait entendre par la musique de l'autre. On entend, grâce à l'Évangile, que la vie est l'appel à une réjouissance. Et si j'étais sûr de bien me faire comprendre, je dirais qu'elle est un appel à la jouissance. L'Évangile est un appel à la jouissance. Jouissance d'être, d'exister, jouissance de vivre, jouissance de la joie de vivre. Et cette jouissance ou cette réjouissance est si souvent bloquée, paralysée, opprimée en nous, qu'elle est comme en souffrance. Et l'Évangile, c'est la parole qui vient s'insinuer là où il y a fermeture et blocage pour que ce qui est en souffrance en nous se libère et jaillisse en réjouissance. En disant ça, j'ai tout dit de l'Évangile, de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il peut vous dire, de toutes les harmoniques et de toutes les résonances qu'il peut libérer au contact de cette parole vivante, de cette parole parlante. Il faudrait, un peu comme j'essaye de le faire avec vous, pouvoir dire l'Évangile sans nécessairement citer les paroles de l'Évangile. Il faudrait pouvoir faire entendre Jésus sans le ramener nécessairement à l'imaginaire chrétien que nous en avons. Il faudrait pouvoir faire entendre ce que j'essaye de vous partager et que l'on peut dire dans plein d'autres mots et par d'autres expressions artistiques aussi, comme vous le verrez pendant les ateliers. Il faudrait pouvoir que l'Évangile puisse se dire à tout homme sans qu'il doive repasser le film d'une culture chrétienne qui ne dit plus grand-chose à personne aujourd'hui. Il faudrait que nous puissions faire entendre l'Évangile et que déjà chacune et chacun, on puisse en entendre quelque chose sans que ça ne déroule le petit catéchisme que nous avons reçu et qui n'a pas grandi avec nous. C'est pour ça, et pour, je pense, Bernard, il faut que tu me...
C'est très bien.
C'est certainement 5 bonnes minutes, bon. Donc voilà.
Bonjour. Ah ben ça, c'est plutôt le signal, oui. Ça va être difficile de faire encore 5 minutes. Vous avez bien fait de venir, monsieur. C'est pour ça que ce qui nous handicap peut-être le plus, je ne sais pas si le mot handicap est le mot correct, ce qui en tout cas nous empêche de mieux connaître ce Jésus qui reste inconnu. C'est donc bien le petit Jésus d'un petit catéchisme qui n'a pas grandi avec nous. Je pourrais le dire autrement. La plupart des croyants n'ont pas une foi adulte, mais une foi d'enfant. Et c'est cette foi d'enfant qui n'est pas accordée à l'Évangile. Vous me direz, mais Jésus n'a-t-il pas dit que le royaume des cieux ou de Dieu est aux enfants ou à ceux qui leur ressemblent ? Certes, mais comme vous savez, Jésus ne parlait pas de l'âge, ni même de l'état de non-développement de la maturité, il parlait de quelque chose d'autre dont je vais dire un mot. L'Église, ne la blâmons pas, c'est nous. Elle a cru pendant longtemps qu'il fallait parler à des adultes comme à des enfants. Ce qui a conduit à créer donc cette foi enfantine, chrétienne enfantine, comme dit l'écrivain Michel Degui, une foi qui n'a pas permis d'entendre que l'enjeu de l'Évangile, ce n'est pas de tisser un imaginaire chrétien, pieux, naïf, que ce n'est pas, ou que ça n'a pas pour but, de faire de nous des bons petits chrétiens, que l'Évangile, c'est une parole adressée pour que chacun entende à lui adressé, à lui singulièrement adressé, la seule parole qui compte, qui, je le répète, est « Il est bon que tu existes ». C'est cet évangile-là qui mûrit avec nous. C'est lui qui permet de passer, de traverser les épreuves de la vie, les seuils, les mutations, les changements, les épreuves. C'est lui aussi qui permet d'être vécu en famille, professionnellement, sur tous les terrains de nos activités. C'est lui qui permet de sortir donc soit d'un prosélytisme un peu idiot qui consisterait à essayer de faire des adeptes, à essayer de redonner la foi à nos jeunes, aux enfants, aux moins jeunes. Le but n'est pas de refaire des chrétiens. Le but, vous l'avez compris, c'est enfin de faire des hommes des humains. Et après 2000 ans, je pense que l'effondrement du christianisme dit très exactement ceci. Ce n'est plus pour faire du christianisme que Christ est la figure qui nous devance et nous précède. C'est pour l'humanisation de ce qui reste encore à accomplir en l'homme, en tout homme. Qu'il est temps de comprendre que la foi chrétienne n'est pas basée sur une drôle d'histoire d'incarnation, mais sur une idée fantastique et inouï de l'humanation de Dieu. L'humanation de Dieu. Néologisme, je vous le concède, mais qui dit peut-être un petit peu mieux que le mot incarnation ce dont il s'agit. Jésus est un homme, comme vous et moi. Si je l'écrivais, je devrais le souligner 10 fois. Jésus de Nazareth est un homme, un humain, comme vous et moi. Ni plus, ni moins. Un homme qui a entendu, à lui, adressé singulièrement, ce qui en fait un unique, une parole qui dit « Il est bon que tu existes ». Vous vous dites où est-ce qu'il trouve ça dans l'Évangile, ce sera pour la seconde partie, comme ça je mets un petit peu de suspense entre les deux interventions, comme dans une bonne série américaine sur Netflix. Il a entendu cette parole, il l'a accueillie, et il est devenu ce fils de l'homme, c'est-à-dire cet humain, qui, en plénitude, vivait de cette parole que Dieu lui adresse et qu'il nous adresse. Ce Jésus-là, qui reste encore inconnu, et qui reste même encore tellement inconnu pour les chrétiens eux-mêmes, c'est celui qui nous précède vers la Galilée, c'est celui qui a pris de l'avance sur nous, ce qui met à notre marche en avant un rythme, un soutien, une sorte de joie à aller là où déjà nous sommes attendus. C'est toujours mieux d'aller quelque part où on est attendu. Je vous remercie.
Et Dominique vous l'a dit, il y a une deuxième partie. Oups, ça a accroché le bazar, c'est pas grave.